Où en est Cantor dans les années 86-96? Il est professeur ordinaire, c'est-à-dire titulaire, à l'université de Halle, où il est nommé en 1869, après sa thèse et son habilitation. Il y passera 50 ans de sa vie jusqu'à sa mort. La correspondance avec des Français s'établit alors que son œuvre est pour l'essentiel élaborée et publiée dans des revues mathématiques allemandes entre 1870 et 1883 pour l'essentiel. Elle a connu également une traduction en langue française entre 83 et 84 dans la revue suédoise Acta Mathematica, dont le rédacteur en chef est le mathématicien Gösta Mittag-Leffler. Cette traduction a eu lieu en France sous la haute autorité de Charles Hermite. Au moment où s'établissent les échanges avec des interlocuteurs français, l'audience internationale de Cantor commence donc à s'affirmer grâce notamment à ses traductions françaises. Et malgré l'hostilité farouche de certains mathématiciens berlinois, comme Leopold Kronecker. En ce qui concerne les relations franco-allemandes, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le mouvement des sciences pousse à des coopérations et à des échanges internationaux, nécessité qui se trouve contrecarrée dans l'immédiate après-guerre de 1870-71. La communication scientifique indispensable se manifeste par d'autres voies, comme le révèle par exemple la traduction en langue française des travaux de Cantor, mais dans une revue suédoise, Acta Mathematica, qui sert un peu de lien entre les deux nations. On peut à ce propos souligner la réaction de Cantor, qui accepte immédiatement l'offre de traduction du rédacteur de cette revue, Mittag-Leffler, traduction en langue française de ses œuvres. Il affirme en effet dans une lettre à Mittag-Leffler de 1883, je cite, « Si je ne savais pas que, au-delà des Allemands, il existe aussi d'autres mathématiciens dans le monde, je n'aurais rien publié du tout en mathématiques depuis 12 ans. » Cantor fait certes référence à l'hostilité de certains de ses compatriotes, comme Kronecker, je l'ai dit. Face à cette hostilité, le choix international que fait Cantor en 83 ne se démentira pas. Nous allons en souligner l'importance jusqu'au premier congrès international de mathématiciens de la fin du siècle. La nécessité de construire des relations scientifiques internationales prend forme dans deux lettres de Cantor, l'une au mathématicien allemand Walter von Dick, en août 90, où l'auteur propose déjà un congrès international de mathématiciens, l'autre à Émile Lemoine, daté de novembre 93, dont le texte ne nous est malheureusement pas parvenu. Par contre, le contenu de cette lettre est partiellement connu par une note rétrospective rédigée par Lemoine lui-même en 97 pour la revue L'Intermédiaire des mathématiciens. Et je cite, Monsieur Cantor m'écrivit à ce moment, en 1893, une lettre en insistant sur l'intérêt qu'il y aurait à voir les rapports des mathématiciens des divers pays se multiplier et indiquant particulièrement pour cela l'importance qu'auraient des congrès internationaux à période de 3 ou 4 ans tenus à tour de rôle dans les principales capitales scientifiques du monde civilisé. C'est déjà carrément un plan de travail. En Allemagne, ces idées ont l'appui, par exemple, du mathématicien Félix Klein, qui développe par ailleurs des contacts avec l'Université de Chicago et participe à un congrès lui-même dans cette ville en 1893. Une difficulté liée à l'organisation de congrès internationaux ne peut cependant pas être éludée. De tels rassemblements auraient dû et auraient pu être proposés par des personnalités incontestables du monde mathématique si la situation internationale ne rendait cette initiative impossible en raison de la rivalité franco-allemande. Ce sont donc des associations comme, du côté français, l'Association française pour l'avancement des sciences, la Société mathématique de France, la Société philomathique de Paris, du côté allemand, la Deutsche Mathematiker Vereinigung, et du côté américain, l'American Mathematical Society. Ce sont ces sociétés savantes qui vont donner corps à ce projet. L'engagement de Cantor au sein de la Deutsche Mathematiker Vereinigung, dont il est l'un des fondateurs et le premier président en 1890, lui permet d'entrer en relation avec des personnalités comme Lézan et Lemoine, qui sont elles-mêmes liées au mouvement associatif français. Nous voyons Cantor déployer dans sa correspondance avec les Français des trésors de diplomatie pour que son projet de congrès international soit couronné de succès. Il n'hésite pas à mettre en avant le fait que, né à Saint-Pétersbourg, il ne peut être considéré comme allemand de naissance. Argument utile afin de convaincre ses interlocuteurs qu'il n'est en rien animé de soucis d'ordre national. Hélène aura l'occasion de donner des précisions sur ce point. La personnalité de Cantor, pacifiste et francophile, se révèle en particulier dans la correspondance qu'il développe avec Henri Poincaré lors de la préparation de ce qui deviendra le congrès de Zurich en 1897. Je cite « Je me réjouis de ce travail collectif qui, je le crois, contribuera au développement de la science mathématique et même, en un certain sens, au bien de l'humanité et des différentes nations. La ville accueillant la première manifestation internationale ne peut être ni Berlin ni Paris pour ne heurter aucun des anciens belligérants. Ce sera donc Bruxelles, ou plutôt Zurich, qui a la préférence de Cantor. » Et du côté allemand, dans un message destiné à son ami Félix Klein, Cantor n'hésite pas à écrire à propos de la préparation de ce congrès « Une telle obligeance envers les collègues français ne peut, d'après moi, qu'être utile à l'entente cordiale scientifique et par là à la science même. Tout est en allemand, sauf l'expression française « entente cordiale scientifique » qui est spécifiée. Et Hélène nous fera aussi un développement sur cette question. Il faut souligner qu'en Allemagne, et je l'ai dit déjà, les idées scientifiques de l'auteur ont du mal à s'imposer. Cantor cherche à contourner ces difficultés en obtenant un appui international par les traductions de ses travaux et par des rencontres de congrès. Il recherche aussi activement le soutien de jeunes scientifiques qu'il côtoie dans la vie associative. Ainsi se montre-t-il particulièrement attentif à la création et au développement de la DMV, Deutsche Mathematiker Vereinigung, où des professeurs de lycée marquent leur intérêt pour la nouvelle théorie des ensembles. C'est d'ailleurs devant le congrès fondateur de cette association que l'auteur développe une méthode révolutionnaire de raisonnement, la célèbre méthode de la diagonale de Cantor. Là aussi, si vous voulez des éclaircissements, je vous les donnerai dans la discussion. Cette démarche réussie, à la fois internationale et jeunesse, elle porte ses fruits, puisque au congrès de Zurich, en 1997, deux intervenants, l'allemand Adolf Hurwitz et le français Jacques Adamard, souligneront l'importance de la théorie des ensembles dans le développement de la théorie des fonctions. De plus, en France, la génération de jeunes normaliens représentée par Adamard, mais aussi par Émile Borel, Henri Lebègue, René Baire, sera profondément cantorienne dans les années 1900-1905, c'est-à-dire les années où ils soutiennent tous leur thèse. Donc, la stratégie de Cantor était en un sens couronnée de succès sur ces questions internationales.